Gémo, publié hier, révèle que plus de 80% des personnes interrogées soutiennent une telle mesure. Même les jeunes, âgés de 18 à 25 ans, se trouvent pour deux tiers d'entre eux dans le camp du oui. Réalisé sur mandat de la Maison Bernoise des Générations, ce sondage a recueilli les impressions de plus de 2700 personnes de Suisse alémanique et de Suisse romande entre septembre et octobre. Migros veut renforcer sa présence en Suisse romande. Le patron du distributeur, Mario Irminger, a expliqué hier dans le Sonntagsblick vouloir répondre à la forte croissance démographique dans plusieurs régions du pays. L'enseigne prévoit ainsi d'ouvrir 140 filiales d'ici 2030, dont une partie importante sur l'arc lémanique. En octobre, Migros avait aussi fait part de sa volonté de rénover 350 de ses magasins en Suisse. L'investissement total pour le groupe devrait atteindre 2 milliards de francs. François Bayrou s'apprête à recevoir dès aujourd'hui les différentes forces politiques pour former un nouveau gouvernement. Le Premier ministre français, nommé vendredi par Emmanuel Macron, est en quête d'une solution viable pour faire passer le projet de budget 2025 de l'État. Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement National seront les premiers à se présenter ce lundi à Matignon. François Bayrou s'entretiendra ensuite avec des représentants du Parti socialiste et de la droite. La France insoumise refuse en revanche une rencontre avec le nouveau Premier ministre. Une attaque des paramilitaires dans l'ouest du Soudan a fait près de 40 morts ce week-end. Un nouveau bilan publié hier par des militants pro-démocratie fait état de 38 victimes dans ce raid qui a eu lieu dans la région du Darfour. En ski alpin, Lara Gut-Bérami est à nouveau montée sur le podium hier à Beaver Creek. Au lendemain de sa troisième place en descente, la Tessinoise a terminé deuxième du Super G disputé dans la station américaine. Elle a concédé près d'une demi-seconde à la vainqueur, l'Italienne Sofia Goggia. Et sur le Vendée Globe, pas de changement pour Justine Métraux au classement. La navigatrice genevoise occupe toujours le 11e rang à moins de 100 000 nautiques du top 10. Les organisateurs de la course en solitaire autour du monde ont annoncé ce lundi que la concurrente britannique Pip Air a dématé. Elle n'est pas blessée. Du soleil au programme en ce début de semaine dans le ciel romand, sauf au nord de l'arc jurassien et sur le canton du Jura où le temps s'annonce nuageux. En plaine, les températures maximales ce lundi oscilleront entre 5 et 7 degrés. À 2000 mètres, le thermomètre grimpera pour sa part jusqu'à 6 degrés au meilleur de la journée. Vous écoutez RTS Info, on se retrouve à 5h pour un nouveau point sur l'actualité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. La nuit, le son reste clair. RTS Première.
Les beaux parleurs. Avec Jonas Schneider.
Et avec ce dimanche matin, Suzette Sando, Stéphane David Zoffer et Colline de Senarclan, notre invité est Jean-Marc Ricli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des risques globaux et émergents au Centre de politique de sécurité de Genève. Vous êtes donc un expert des menaces qui planent notamment sur notre pays. Menaces qui sont listées dans un rapport sorti il y a quelques semaines maintenant du service de renseignement de la Confédération, qui donc liste ce qui pourrait bien nous arriver de grave dans notre pays et ce pourquoi nous devons nous prémunir. Dans cette liste, dans cet inventaire de choses dangereuses qui pourraient nous arriver, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement, Jean-Marc Ricli? Qu'est-ce qui vous semble particulièrement pertinent dans cette longue liste?
Alors d'abord, je veux dire que ce rapport est relativement bien fait, même très très bien fait. Il a une vision exhaustive du panorama sécuritaire et de menaces contre la Suisse. Ce que ce rapport met en lumière, c'est vraiment la multiplicité des menaces auxquelles fait face la Suisse, qui sont d'ordre géopolitique. Bien sûr, on est sur une période de transition entre ce dont on a hérité depuis la fin de la guerre froide, qui était caractérisé par une hégémonie américaine, avec certains diront une bienveillance de la part des États-Unis sur le fait que les États-Unis auraient pu utiliser plus leur pouvoir, mais ils se sont restreints, qui visaient à établir l'ordre international libéral. Et puis, depuis 2022, mais il y avait déjà des signes précurseurs auparavant, on est sur une période vraiment de transition, qui est caractérisée par une polarisation extrême des relations internationales. Et ça, si vous voulez, c'est un petit peu une évolution normale des relations internationales. Vous avez des cycles en théorie des relations internationales. Ce qu'on appelle les théories de l'hégémonie c'est pas stable, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, vous avez des États qui vont essayer de contrer cette hégémonie. C'est ce qui se passe actuellement avec la Chine. Par contre, ce qu'on voit actuellement et qui est nouveau, Et on a vu depuis la fin de la guerre froide l'émergence de nouveaux acteurs, les acteurs non étatiques tels que des organisations criminelles, des organisations terroristes. Et puis de plus en plus, on a également des individus qui ont la capacité d'avoir un impact stratégique. Et ça, c'est dû au fait que la technologie fournit des moyens à tout un chacun d'avoir un impact sur certains domaines. Ce qui fait que on voit une image de la menace, enfin je dirais du risque, parce que le risque est un concept un peu plus flou. Votre exposition au risque dépend de qui vous êtes, qui est beaucoup plus important. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on doit faire face à des challenges, défis géopolitiques tels qu'on a vu dans le passé, mais également de nouveaux challenges, notamment avec l'émergence de nouveaux acteurs qui sont beaucoup plus difficiles à surveiller.
Notamment les jeunes. Le service de renseignement de la Confédération s'inquiète des jeunes. Pourquoi ?
Alors, c'est pas les jeunes qui sont une menace pour la Confédération.
Pas tous les jeunes.
Mais ce qu'on voit en effet, c'est que dans le domaine de la violence politique, il y a en effet un rajeunissement du militantisme. Et ceci, alors c'est encore débattu hein, au sein des spécialistes. Bien sûr, c'est lié au développement des réseaux sociaux. C'est lié au fait que de plus en plus les jeunes s'informent uniquement par les réseaux sociaux, et puis les réseaux sociaux ont cette capacité à vous enfermer dans des bulles informationnelles, notamment à travers des algorithmes. Et puis on voit des systèmes de radicalisation qui touchent des gens très 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 jeunes. Par exemple, en 2020, vous avez un enfant de 13 ans qui est était responsable d'un groupe d'extrémisme de droite qui s'appelle Feuerkrieg Division, qui avait fomenté deux attentats, un à Las Vegas contre une synagogue et l'autre contre les quartiers généraux de CNN. Et puis, eh bien, il y avait environ 30 personnes dans ce groupe qui s'étaient jamais rencontrées, mais vous avez un processus de radicalisation en ligne qui aurait pu mener à des attaques. Alors les deux attaques ont été désamorcées avant qu'elles aient eu lieu. Alors
ensuite, et c'est quasiment indétectable parce que c'est totalement virtuel, finalement.
Alors c'est très très difficile parce qu'en effet vous avez des processus qui sont en fait très personnels. Alors si vous lisez des études sur ce processus de radicalisation de sociologues ou de psychologues, vous avez ce qu'on appelle des facteurs push et pull, des facteurs qui vont vous attirer, si vous voulez, vers ce type, et d'autres vous tirer. Alors bien sûr, il y a l'aspect psychologique, il y a vous savez, les périodes d'adolescence, c'est des périodes où il y avait des grands changements au niveau de la psychologie des individus, des remises en question par rapport à son identité. Et puis bien sûr, si à ce moment-là vous avez, ces jeunes tombent sur des vidéos ou des messages très polarisants, ils peuvent être attirés vers ces messages. Et là, ce qui est important, c'est de pouvoir essayer d'identifier ces processus, notamment à travers l'école, notamment à travers la famille. Et puis après, vous avez aussi des éléments qui sont très clairs. Vous avez certains groupes qui visent certains types de populations. Et après, il y a aussi la problématique des jeux vidéo, où on a vu plusieurs groupes, notamment, qui font du marketing, qui essaient de rechercher, de recruter des jeunes sur cette plateforme. Encore une fois, on n'a pas de recette miracle. Le processus de radicalisation jusqu'à, si vous voulez, on est sur la troisième vague de radicalisation en ligne. La première, c'était simplement des forums. Après, il y a eu toute la décennie précédente avec des sites tels que Facebook et autres où on avait des processus qui renforçaient des processus de radicalisation qui étaient faits dans le domaine physique. Il fallait avoir un contact. Or maintenant, il semblerait qu'on ait de plus en plus des processus de radicalisation sans ces contacts physiques. Et ça, c'est nouveau. Et si c'est le cas, c'est beaucoup plus dur à identifier et à contrer.
Une première question pour notre invité Jean-Marc Riquier autour de la table. Qui veut se lancer ? Suzette Sando.
Alors, si j'ose, d'abord, merci monsieur de vos explications. En fait, du moment qu'il y a une individualisation du danger, comme vous l'avez mentionné, ça implique plus de personnel pour surveiller des individus. Combien est-ce que vous bloquez de personnes ? Ça m'intéresse parce qu'on a des indications pour le service fédéral. Si vous devez surveiller un individu, une personne comme telle.
Alors, juste pour, si on regarde les chiffres,
oui, hein, oui, oui.
Eh bien, le service de renseignement de la Confédération, c'est 450 personnes.
Ah non, mais pas par personne, excusez-moi.
Alors, je vous donne juste
450,
450 personnes.
Espions pour le pays.
Alors, c'est pas dans un service de renseignement, vous savez qu'il n'y a pas que des espions. Il y a beaucoup d'analystes et il y a beaucoup de gens qui font d'autres choses que de l'espionnage. D'ailleurs, un service de renseignement, sa vocation, c'est pas seulement de faire de l'espionnage, c'est surtout de l'analyse. Alors, 450 personnes. On estime que pour une personne que vous avez identifiée et que vous voulez suivre en permanence, c'est entre 20 et 30 personnes que vous devez mettre derrière. Donc vous voyez déjà le problème. Et donc il faut voir qu'en Suisse, on a le service de renseignement le plus petit. En Europe, par exemple, le service de renseignement autrichien est 3 fois plus important que le service en Suisse.
Donc on peut suivre en gros 20 personnes dans le pays, quoi.
Alors après vous pouvez faire les mathématiques. Alors après il faut encore voir qu'il y a des services de police. Dans chaque service de police cantonaux, vous avez une cellule de renseignement, mais ils ne font pas que ça. Il y a pas que le service d'enseignement ne fait pas que de la lutte contre le terrorisme. Vous avez énormément d'autres menaces. Et au moment où vous avez ce qu'on appelle une surface d'attaque qui augmente de manière permanente, eh bien, automatiquement, si vous voulez résoudre ces problèmes-là, vous devez mettre plus de capacités. Mais juste pour vous montrer un peu la nature du problème, il y a le responsable juridique de la NSA, il y a quelques années en arrière, 3 ou 4 ans en arrière, avait publié un édito dans le Washington Post. Il avait écrit, voilà, actuellement, la NSA et les services de renseignement américains sont incapables de faire face à toutes les menaces qui existent. Pour regarder le budget du renseignement américain, c'est plus de 50 milliards par année. Juste en comparaison, le budget de la défense suisse, c'est de la défense, hein, on ne parle pas du renseignement, c'est 5 milliards. Donc là, quand vous avez l'État le plus puissant au monde qui arrive au constat comme quoi il est impossible de faire face à toutes les menaces, vous voyez qu'automatiquement, on se retrouve devant un problème qui est assez important, et ça implique notamment d'avoir des coopérations avec des partenaires étrangers.
Stéphane David Zoffer.
Oui, alors, déjà, je suis très content que Jean-Marc soit là aujourd'hui, parce que
on est
collègues et copains, hein, donc c'est littéralement, je suis en train d'être rémunéré pour une pause café ici, je suis assez content, puisqu'on aurait eu cette discussion au boulot de manière similaire. Donc, après avoir dit ça, et que j'aurais du mal à prétendre que je le vous vois, comme on fait tous ici, là, quand on vous voit, voilà.
Donnez-lui son petit surnom, c'est
voilà,
pas grave.
Voilà, donc, oui. Salut Jean-Marc. Alors, donc, c'était pour revenir sur sur la question de l'effectif et de la surface d'attaque, et qu'on doit faire beaucoup de choses, et qu'on a un petit service et qu'on a énormément de choses, notamment aussi au-delà des questions de terrorisme, des questions d'activité de services étrangers en Suisse, parce qu'on sait quand même la Suisse et Genève notamment sont des lieux assez intéressants en termes de renseignements.
Il y a beaucoup d'espions étrangers.
Oui, parce que c'est quand même des lieux qui accueillent en fait énormément d'organisations internationales. Donc forcément, ça augmente cette surface d'attaque, comme dit Jean-Marc. Donc la question qui se pose maintenant, c'est quand on a concrètement ce problème partout dans le monde, mais spécifiquement pour un pays comme la Suisse qui a peu de ressources, qu'est-ce qu'on fait de l'allocation de ressources, mais aussi qu'est-ce qu'on fait du nombre de menaces qu'on doit gérer et comment est-ce qu'on les hiérarchise? Parce que un des défauts peut-être de notre époque, c'est que, et ça c'est ma vie personnelle, c'est que à force de vouloir montrer la complexité du monde en montrant qu'on a toutes ces menaces qui sont interconnectées entre elles, ou l'immigration clandestine finit par être mélangée avec le terrorisme et le crime organisé, etc., en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça devient, on finit juste par créer en fin de compte autant de l'angoisse qu'on essaye de la gérer si on a tout ça, par rapport au fait où je dis où le monde du renseignement, il vivait dans un univers plus simple avant, où au niveau du renseignement, disons, on avait la question de la menace, on va dire, de l'URSS, la guerre froide, on était avant tout sur des questions militaires et des menaces stratégiques. Et d'ailleurs, en Ukraine, on a un peu ramené ça. On a dit, bah voilà, au moins l'armée fait la défense territoriale, il y a un renseignement qui va avec, et le reste, ça va être des questions de police ou les questions de radicalisation, par exemple, des jeunes. Ben, à l'époque, c'était des policiers qui s'occupaient de la radicalisation des sectes, puis c'est des jeunes qui font, voilà. Mais c'était des univers un peu séparés. Donc la question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, face à ces problèmes réel d'allocation de ressources, est-ce qu'on ne doit pas devoir hiérarchiser les menaces?
C'est vrai que le rapport du SRC pourrait s'appeler « on vous l'avait bien dit ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une liste de tout ce qui peut nous arriver, et comme ça, on est sûr qu'ils nous ont prévenus. Ok, mais avec des ressources très limitées, on commence par faire quoi?
Bah, je pense pas que c'est une liste. C'est pas revanchard. C'est ce rapport, c'est de dire la situation telle qu'elle est. Et le problème, c'est que durant ces 30 dernières années, il y a eu un désinvestissement massif dans le domaine de la sécurité. Et maintenant, depuis 2022, c'est clair que ces problématiques-là sont revenues vers nous de manière très importante. Et eh bien, il faut réinvestir. Alors, on a perdu un certain nombre de compétences, notamment dans les forces armées. Et il faut les reconstruire. Simplement, ça prend du temps. Ça prend environ une dizaine d'années, par exemple, dans le domaine de la défense antiaérienne. Maintenant, au niveau de la, pour répondre à Stéphane, c'est une histoire. C'est le politique qui doit décider. Quand vous priorisez des menaces, maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre le curseur. Alors, la problématique, c'est que du fait de ces menaces, de ces ressources limitées, bien, il faut qu'à un moment donné dire voilà, ça on s'occupe de faire et ça on s'occupe pas de faire. Et bien, c'est un arbitrage qui est très difficile. On peut compenser ce problème-là, notamment par la coopération, coopération internationale, parce que vous allez mettre dans un pool commun un certain nombre de ressources, dans le domaine de la défense aérienne ou contre les missiles balistiques, qui est quasiment inexistante en Europe, la Suisse ne peut pas se défendre seule. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il faut avoir une conception de la sécurité qui change également. On n'est plus seulement dans une conception de la défense, c'est-à-dire on identifie une menace et on va se défendre, il faut de plus en plus favoriser également la résilience, c'est-à-dire la capacité à absorber un choc et de continuer de fonctionner. Et ça, ça implique non seulement que l'État mette des ressources, mais également les entreprises. On peut-être parler de cybersécurité et autres. Si, par exemple, je prends le cas de la cybersécurité, on estime que l'année prochaine, les coûts mondiaux liés au cybercrime, ce sera 10,8 trillions de dollars. Donc ça veut dire 10 800 milliards de dollars pour une année. On estime que, c'est un rapport du budget américain de cet été, ils ont estimé que le coût de la guerre contre le terrorisme de 2001 à 2020, donc en 20 ans, a coûté aux États-Unis 5,4 trillions, 5 400 milliards. Donc l'année prochaine, juste le coût du cybercrime au niveau mondial sera le double de ce qu'a coûté la guerre contre le terrorisme aux États-Unis pendant 20 ans. Donc voyez un peu l'échelle. Alors ça veut dire que les États ne peuvent pas se permettre, n'ont pas les moyens de régler tous ces problèmes, il faut également que la société civile, que les entreprises investissent là-dedans. Mais comme vous l'avez vu, par exemple, vous rappelez de cet été, vous avez une entreprise CrowdStrike qui a fait une mise à jour de son logiciel, et ça a mené, il y a eu un bug, et puis il y a eu quasiment la moitié des aéroports en Europe qui étaient bloqués. C'est plusieurs milliards de dollars qui vont être portés par l'industrie. Ça veut dire qu'on a créé, si vous voulez, des systèmes sur une architecture très 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 vulnérable, car à la base Internet n'était pas pensé avec la sécurité, c'était une histoire de connectivité, et maintenant on voit qu'il y a des trous énormes, et maintenant on est obligé de de faire face à ces lacunes, et ça coûte très 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 cher.
Colline de Senarclan.
Juste peut-être clarifier juste une chose par rapport à quelque chose sur lequel vous êtes allé assez vite tout à l'heure, les jeux vidéo, c'est pas les jeux vidéo qui radicalise, c'est le fait qu'il y a des échanges sur les jeux vidéo qui sont utilisés comme une plateforme au même titre que les réseaux sociaux, par exemple. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on a souvent tendance à taper sur les jeux vidéo et qu'évidemment, c'est pas la question. Moi, je trouve très intéressant ce que vous dites quand vous dites c'est le politique qui doit décider. Aujourd'hui, on voit que la radicalisation, vous l'avez dit, elle se dirige davantage vers l'extrême droite, alors qu'on a souvent, par exemple, aujourd'hui, si vous parlez de radicalisation au Café du Commerce, on va parler d'une radicalisation islamique, par exemple. Et que, à mon avis, pour que le politique soit en mesure de prendre les bonnes décisions, il faut aussi qu'il sache où sont les problèmes. J'espère qu'il lise votre rapport. Une autre chose, on a beaucoup lutté contre les radicaux d'extrême gauche à une période où il faisait pas bon faire des manifs d'extrême gauche, fichiers, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, le truc, il était politique, il arrangeait bien certaines politiques, mais qu'en réalité, c'est pas là qu'est le danger. Moi, je vois notamment la radicalisation sexiste, masculiniste, qui touche également beaucoup, beaucoup les jeunes et qui met concrètement en danger. Enfin, il y a un risque énorme par rapport à ça. Et je pense que du coup, il y a des politiques qui doivent aussi se faire et qui peuvent aussi se faire, non pas seulement grâce à la coopération internationale dont vous parlez, qui est très intéressante, mais aussi avec la coopération locale. Les maisons de quartier, par exemple, sont des lieux qui luttent au quotidien contre cette radicalisation, qui informent, qui soutiennent, etc., etc. Les politiques publiques, en fait, locales, elles sont extrêmement puissantes et importantes pour lutter contre ces phénomènes de radicalisation. Et j'ai l'impression que souvent, le côté sécurité est vu à travers un prisme, effectivement, renseignement international, etc. Et qu'en réalité, il y a aussi des acteurs et des actrices de terrain qui font ce travail-là et qui doivent être soutenus par ces politiques dont vous parliez.
Jean-Marc Ricli, moins d'espions, plus de maisons de quartier.
Non, alors, je vais...
pas
c'est pas soit un, soit l'autre. Je vais un peu m'inscrire en faux ce que vous avez dit par rapport au processus de radicalisation. En effet, vous avez un processus de radicalisation des mouvements d'extrême droite et qui attire un certain nombre de jeunes, notamment ce qu'on appelle les incels et d'autres, donc ces jeunes qui sont complètement coupés du monde.
Incels, ça veut dire involontairement célibataire et voilà. C'est un mouvement masculiniste.
Ils sont masculinistes, exactement. On voit aussi un processus de radicalisation à l'extrême gauche, notamment à travers les thématiques liées aux droits des animaux, à l'orientation sexuelle, à l'orientation enfin raciale. Et ça, on a, au GCSP, au début de la pandémie, on mesurait, si vous voulez, l'activité de ces différents réseaux. Et puis, durant la pandémie, on avait vu que les extrémistes de droite, c'est x3, et les extrémistes de gauche, c'était x2.
Puis le danger qu'ils représentent n'est pas le même, parce que quand un vegan met une pierre sur une boucherie ou quand des réseaux proposent d'attaquer des synagogues, on n'est pas complètement dans la même proportion en termes de risque.
Alors, on voit également un processus de radicalisation quand même des mouvements d'extrême gauche qui ont recours à la force. On a vu des attaques de TGV en France, de certaines infrastructures ou autres. Donc, il ne faut pas avoir une vision aussi idyllique. D'un côté, c'est bien et puis l'autre, c'est terrible. Des deux côtés, on a des éléments qui sont assez perturbateurs. Maintenant, par rapport à votre remarque sur la solution, en Suisse, on a un organe qui s'appelle le Réseau National Suisse de Sécurité, qui est un organe qui fait parler la Confédération et les cantons. Et puis, cet organe a publié maintenant son deuxième rapport sur des mesures de déradicalisation. Et ces mesures-là, notamment, il y a trois mesures importantes. Un, c'est la coopération entre autorités au niveau fédéral et au niveau cantonal, mais également avec la société civile. La deuxième mesure, c'est promotion de la pensée critique, notamment à travers l'éducation, avec l'école, essayer de faire sortir ces enfants quand il y a certains éléments qu'on peut identifier. Et l'idée, c'est d'identifier les professeurs, les enseignants identifient ça, et puis ils essaient de débattre, si vous voulez. L'important, c'est à ces jeunes, quand ils sont adolescents, c'est aussi de fournir une contre-vision, de les challenger sur leur postulat. Et le troisième élément, qui là, probablement va vous plaire, c'est la sensibilisation aux questions de genre. Parce qu'on voit également maintenant une augmentation importante de la part de radicalisation des femmes, qui était pas le cas auparavant, et ça, on voit une augmentation. Donc la Suisse, dans son plan, je crois, c'est en 2025 à 2028, je ne sais plus exactement, mettra la priorité sur ces trois aspects. Donc la Suisse s'intéresse et concrètement a des mesures, il y a 11 mesures sur ces trois thèmes qui sont développés.
Intéressant. Une question quand même sur Donald Trump et la dépendance de l'Europe et de la Suisse aux États-Unis pour sa sécurité. On a dit dans notre débat tout à l'heure que l'Europe de la sécurité devait se penser, l'Europe de la défense, terme de Macron. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous semble crédible qu'on arrive sans les États-Unis à se protéger en Europe et en Suisse?
Alors, la relation des États-Unis avec l'Europe a toujours été, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une relation de dépendance. C'est-à-dire que du fait que les États-Unis fournissent le parapluie nucléaire aux Européens, les Européens sont dépendants de Washington. Et puis, il y a eu plusieurs crises au niveau de l'OTAN, notamment les années 60. Et la crise a toujours été sur est-ce que les États-Unis étaient prêts à s'engager militairement si vous aviez, à l'époque, des troupes de l'Union soviétique qui allaient envahir l'Allemagne ou d'autres États d'Europe occidentale. Maintenant, la donne est un peu différente, dans le sens où, depuis 2022, depuis février, si une des objectifs de Poutine avait été de réduire, si vous voulez, l'influence de l'OTAN, eh bien, on peut dire que ça a complètement foiré. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouve tout à coup avec un doublement de ses frontières, avec des États limitrophes, avec des États de l'OTAN, notamment avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Et puis maintenant, il y aura beaucoup de discussions. C'est clair qu'il a dit que Trump a dit qu'il allait régler le problème en 24 heures en Ukraine. Probablement, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire pression sur les Ukrainiens, et il a un énorme bras de levier qui est celui de l'aide militaire. C'est environ jusqu'à maintenant 58 millions d'euros contre environ 37 pour l'Union européenne. Et il y a un plan qui circule actuellement, c'est-à-dire, bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va geler le conflit actuel, c'est-à-dire que les quatre oblasts probablement reviendraient qui ont été conquis, et certains uniquement pas encore totalement, reviendraient à la Russie. En contrepartie, et en plus, l'Ukraine ne pourrait pas être membre de l'OTAN durant les 20 prochaines années. Ce plan mentionnerai également que des troupes d'État européens devraient être en Ukraine et que les États-Unis fourniraient de l'armement. Or ça, si vous voulez, eh bien, si on commence à creuser un peu ce plan, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout à coup, vous avez des troupes européennes de pays membres de l'OTAN qui vont se retrouver avec en face de troupes russes. Donc, il y a un potentiel non négligeable pour une escalade. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à l'Europe...
Est-ce que c'est crédible de s'émanciper des États-Unis avec tout ce que vous nous racontez? J'ai envie de dire non.
Eh bien, le problème, c'est que si vous regardez, par exemple, l'année passée, en mars 2023, l'Union européenne avait promis 1 million d'obus d'artillerie à l'Ukraine pour mars 2023. Or, en août de cette année, ils en ont livré 600 000. Donc, les Européens ont eu quand même 4 ans pour se préparer, n'ont pas mis en place les structures pour se mettre dans une économie qui permettrait d'avoir une plus grande autonomie stratégique pour être aussi beaucoup moins dépendant des États-Unis. C'est pas seulement vis-à-vis de la Russie, mais c'est aussi être beaucoup moins dépendant de ce qui va, des décisions que Washington va prendre. Or, actuellement, on voit qu'il y a eu quelques impacts, notamment une augmentation d'environ 10% de budget, mais dans les faits, les Européens sont encore totalement dépendants des États-Unis. Et puis après, vous êtes là, l'autre problématique, c'est-à-dire qu'on a vu, qu'on voit c'est une constance, vous avez au sein de l'Union Européenne bien, pas de cohésion par rapport à la politique qu'il faut avoir par rapport à Trump. On voit déjà maintenant qu'est-ce que certains États vont déjà à Washington pour essayer de séduire l'administration Trump en leur disant qu'ils vont acheter de l'équipement américain.
Qui a une dernière question pour notre invité? Qui veut se lancer? Il nous reste 2 minutes.
Moi, je peux lui parler demain.
Stéphane. Hein,
donc, oui. Ça Suzette. Dépend si vous voulez une réponse publique ou une réponse intime.
Suzette.
En réalité, comment fonctionne la coordination entre les services cantonaux et le service fédéral? Est-ce qu'il y a une vraie répartition de compétences?
Alors, je suis pas dans les services, mais vous avez dans chaque police cantonale un officier de police qui est responsable de cette coordination. Et puis, bien sûr, vous faites remonter l'information des cantons à la Confédération. Vous rappelez peut-être...
Et l'inverse se joue aussi?
Ah, bien sûr, bien sûr.
Question sur le fédéralisme de Suzette Sandeau.
Non, mais qui est hyper important. La coopération, oui. Effectivement, c'est sur des enjeux comme ça, si on a 450 personnes au niveau fédéral, on est bien obligé de collaborer avec...
Et puis, de toute façon...
Le comment de Suzette, c'était un comment qualitatif. C'était pas le comment... c'est organisé. C'est est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas?
Il y avait les deux aspects.
D'accord.
Parce qu'après, il y a toute la problématique aussi du contre-espionnage. Et puis, là, vous devez avoir un ancrage local. Vous vous rappelez peut-être à l'époque, avant que les Français fusionnent, il y avait les RG, les renseignements généraux. Eh bien, les renseignements généraux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils allaient vers les... À l'époque, il y avait encore des concierges dans les immeubles. Et puis, c'était ça, si vous voulez. Ben, eux, c'était des gens qui voyaient des choses qui étaient pas normales. Alors, en Suisse, vous devez avoir... Un service d'enseignement doit avoir un ancrage territorial. Sinon ça fonctionne pas du tout.
Oui, difficile d'envoyer un Zurichois à Lausanne pour espionner discrètement.
C'est histoire de connaître un peu l'environnement dans lequel vous êtes.
Merci beaucoup Jean-Marc Ricli d'être venu dans les beaux parleurs. Un dernier mot?
Oui, je vais juste faire une plus personnelle, un coucou à Monique qui actuellement nous regarde de sa chambre d'hôpital et je lui souhaite tout de bon. Donc voilà.
son de la radio, la nuit, sur RTS Première.
Histoire vivante. Histoire vivante, Anaïs Kien.
En 1937, l'Université de Lausanne décerne un doctorat honoris causa à Benito Mussolini. L'Université vaudoise honore celui qui est au sommet de son parcours de dictateur. L'affaire rebondit depuis des décennies. Que faire de cette distinction si solennelle envers une des figures les plus sombres du XXe siècle ? Mussolini et la Suisse, épisode 5, l'antifascisme. Mussolini, docteur de l'Université de Lausanne, c'est une opération dont les promoteurs ont été identifiés dans les épisodes précédents. Mais les antifascistes ont leur mot à dire eux aussi. Après l'exploration de la sensibilité suisse au fascisme italien, dans cet épisode, on se tourne vers les opposants de Mussolini, avec Colin Rutschmann, auteur d'un mémoire de master intitulé « Antifascisme sur le territoire lausannois durant l'entre-deux-guerres, modalité, antagonisme et conflictualité ».
Lausanne a en fait de base un terrain assez fertile à la prolifération du fascisme pendant l'entre-deux-guerres. Donc, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà en raison tout simplement des séjours répétés de Mussolini à Lausanne pendant sa jeunesse. Donc, c'est à Lausanne qu'il se rend en 1902 pour fuir le service militaire italien. Donc, il se rend à Lausanne dans le but de trouver du travail. Il est d'ailleurs arrêté pour vagabondage sous les ponts de Lausanne. Il se rend à Lausanne plusieurs fois entre 1902 et 1904, ce qui fait qu'il y tisse aussi, l'air de rien, un cercle social. Donc, il se sent relativement bien dans la ville de Lausanne. Et puis, Lausanne, c'est aussi un lieu d'accueil d'une immigration italienne qui va en fait être encadrée par les autorités consulaires à partir du moment où le fascisme est bien instauré en Italie. Il va y avoir en fait une reconfiguration des autorités consulaires qui seront plus affiliées au régime fasciste, donc qui seront en fait des partisans assez clairs du fascisme mussolinien et qui vont du coup encadrer ces populations immigrées sur le territoire lausannois et qui vont, par des stratégies dissuasives ou persuasives, les encourager à devenir partisans et partisanes du fascisme, du régime fasciste italien. Donc en fait, c'est dans un premier temps par l'encadrement de la population italienne qui réside à Lausanne que le régime fasciste va pouvoir faire des incursions sur le territoire lausannois en instaurant des institutions relais de la propagande fasciste à Lausanne. Donc, à partir de la fin des années 1920, le territoire lausannois va être un haut lieu de la propagande fasciste sur l'ensemble de la Suisse romande. Donc ce sera un peu l'espace de prédilection pour relayer la propagande fasciste en Suisse romande. Il y a plusieurs explications, outre les séjours répétés de Mussolini à Lausanne. C'est aussi la volonté probablement de compenser l'attraction antifasciste qu'il y a à Genève, pour compenser en fait cette attraction que mène Genève pour les antifascistes et pour les activités antifascistes. Mussolini, ça c'est une interprétation, on n'en est pas absolument convaincu, mais va utiliser Lausanne en y instaurant justement plusieurs institutions fascisantes ou carrément fascistes. Donc c'est notamment en 1933 qu'il y a l'inauguration de la Casa d'Italia à Lausanne, qui va en fait agglomérer, unifier plusieurs associations italiennes, plutôt d'obédience fasciste. Donc on a par exemple l'Association des Anciens Combattants, on a la Dante Alighieri, qui à Lausanne est plutôt fascisante, ou en tout cas qui a des appétences pour le régime fasciste. Et puis un tas d'autres associations qui sont partiellement en tout cas séduites par la doctrine fasciste. Et puis en 1927, c'est aussi le CINEF qui voit le jour à Lausanne, donc le Centre International d'Études sur le Fascisme, qui va être inauguré à Lausanne en 1927, sous la direction de Hermann de Vries, qui est un idéologue fasciste, si on résume. C'est une personne aussi dont on connaît très bien les affiliations pour l'antisémitisme. C'est une personne aussi qui a publié des ouvrages sur notamment le fascisme et ses résultats, donc qui a vraiment un véritable attrait pour le fascisme et qui va, par l'intermédiaire de son centre, essayer de faire résonner et rayonner toute cette doctrine fasciste que lui souhaite internationaliser. Mais au final, ce sera assez limité, en fait, finalement, dans les actions et dans les répercussions vraiment de son centre à Lausanne et à l'international. Mais voilà, il y a quand même ce centre-là qui est inauguré. Et puis, 1933, si je me trompe pas, il y a la Fédération fasciste suisse aussi, qui est institutionnalisée, donc sous la gouvernance de Arthur Fonjala, le colonel Fonjala, qui est lui originaire de Lutry, et qui va, pour le coup, vraiment déjà reprendre l'appellation du fascisme, et puis instaurer ce parti politique, pas du tout seulement à Lausanne. Donc il est inauguré à Lausanne, mais les locaux seront ailleurs, je crois. En tout cas, il va essayer de populariser cette doctrine fasciste sur le sol lausannois, entre autres, mais aussi sur le sol national, dans toute la Suisse.
Colin Rutschmann.
Ce qui est sûr, c'est que, qu'il s'agisse des fascistes italiens ou des fascistes lausannois, les deux reçoivent des aides financières importantes de la part de Rome, de la part de Mussolini en personne, qui va en fait subventionner ces mouvements-là, qui va les encourager aussi. Et donc on peut imaginer évidemment qu'il y a des synergies entre ces mouvements, mais a priori moi j'ai pas de preuves effectivement que ces personnes se retrouvent autour d'une table pour en parler, mais disons l'idéologie est la même, la volonté est aussi la même, les intentions sont quand même aussi les mêmes. Donc oui, moi je pense qu'il y a effectivement des liens étroits entre les personnes qui sont affiliées à des organisations fascistes ou fascisantes.
Des antifascistes en Suisse, il y en a. Mais ils s'opposent à quoi ? Que peut-on entendre de Mussolini et de son programme lorsqu'on vit à Lausanne il y a presque un siècle ?
Il faut bien savoir que même si le fascisme s'est instauré en quelque sorte et s'est institutionnalisé en Suisse, sa portée a été relativement limitée dans le champ politique. Après, au niveau social, c'est tout à fait possible que l'idéologie ait beaucoup plus séduit, notamment les classes bourgeoises traditionnelles dans le canton de Vaud. Après, il y a effectivement une volonté réelle d'instaurer un régime fasciste de la part de alors certains partisans vraiment du fascisme ont cette volonté-là, notamment Arthur Fonjala dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui se dit, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui sont adeptes, on va dire, d'une démocratie très tempérée et d'un fédéralisme intransigeant. C'est des personnes qui ont une volonté souvent d'instaurer un régime dont le pouvoir serait cristallisé entre les mains d'une seule personne. Donc cette volonté aussi de vraiment réduire le pouvoir à un chef, un leader, comme le Duce aurait les pleins pouvoirs.
C'est pas très suisse, ça.
C'est pas très suisse, effectivement. Et c'est pour ça que la résonance n'est pas extrêmement bien perçue, en fait, de la part de l'opinion suisse. On tient nos institutions républicaines démocratiques. C'est ce que nous disent souvent les autorités universitaires aussi quand ils répondent aux lettres de contestation au moment de l'attribution du titre à Mussolini. Mais effectivement, ça aurait été un fascisme plus modéré que celui qui était en Italie, bien que certains partisans vraiment du fascisme mussolinien avaient cette réelle volonté d'instaurer un régime dictatorial, quoi. Arthur Fonjala, qui était lui-même, dans l'historiographie, Claude Cantini l'appelle le petit Duce helvétique. Donc, c'est des personnes qui ont des volontés vraiment dictatoriales, qui ont une volonté d'instaurer leur vision du monde, leur idéologie à l'ensemble de la population à ce moment-là.
Le fascisme italien, c'est un régime qui réprime ses opposants, qui les muselle et qui les poursuit. Par un effet apparemment logique de voisinage, on pourrait penser que la Suisse a tout le potentiel pour devenir un refuge pour ses exilés politiques. Mais la place est déjà prise.
A priori, Lausanne, c'est pas un espace très accueillant pour les antifascistes.
Trop de fascistes.
Trop de fascistes, exactement. et puis des autorités policières assez peu accommodantes à l'égard des antifascistes. Mais il y a quand même, effectivement, dans certaines organisations, notamment des syndicats laïcs, mais aussi certains partis politiques, une présence d'immigrés italiens antifascistes. C'est notamment le cas au sein de la Fédération ouvrière du bois et du bâtiment. Donc l'immigration italienne, elle est aussi beaucoup ouvrière. Elle participe beaucoup au chantier, elle participe beaucoup dans le domaine de la construction. Et c'est ce domaine-là de la construction qui est assez bien syndiqué, donc notamment au sein de la Fédération ouvrière du bois et du bâtiment. Et puis là, il va y avoir des activités antifascistes qui vont être menées sur le territoire lausannois, notamment en réaction à la fusillade de Genève du 9 novembre, où il y a une levée de bouclier en fait qui s'est vraiment animée aussi à Lausanne.
Le 9 novembre 1932, c'est un traumatisme dans l'histoire genevoise dont l'onde de choc a traversé les frontières cantonales.
C'est une date charnière quand on parle des antagonismes entre fascistes et antifascistes. C'est en fait le point culminant, on pourrait dire, de ces affrontements. 13 morts, plus d'une centaine de blessés. C'est une manifestation qui avait à la base été organisée par Léon Nicole, entre autres, et par le Parti Socialiste Genevois, pour contrecarrer un meeting qui était proposé par l'Union Nationale de Géo Ultramar. Donc, cette manifestation qui était totalement antimilitariste, totalement pacifiste, a été réprimée dans le feu et le sang. C'est un moment effectivement très important à Genève, qui aura aussi des répercussions profondes à Lausanne, dans la reconfiguration en fait de l'échiquier politique lausannois, puisque en 1933, donc une année après, il y a les élections municipales à Lausanne. Le Parti ouvrier socialiste lausannois va axer sa campagne sur la lutte contre le fascisme, notamment, et sur la lutte contre le chômage aussi, mais entre autres sur la lutte contre le fascisme. Et puis, les répercussions en fait lausannoises de cette fusillade de Genève vont être réelles, puisque pour la première fois, les socialistes lausannois vont accéder en fait à la municipalité de Lausanne. Et puis ça, c'est directement lié à la fusillade de Genève, qui a profondément marqué les esprits et l'opinion genevois, mais aussi lausannois. Et puis, c'est aussi lié à une quantité de scandales financiers par rapport au Parti libéral radical. Il y a eu aussi beaucoup de manifestations à Lausanne en soutien aux victimes de cette fusillade. Et puis, il y a eu aussi un attentat à la bombe le 13 novembre à l'hôtel de ville de Lausanne qui a été attribué aux antifascistes par les autorités policières. Il s'avère qu'il n'y a aucune preuve qui relie les antifascistes à cet attentat, mais les autorités policières ont en profité pour dresser des listes nominatives de toutes les personnes actives dans la lutte contre le fascisme. Et ont perquisitionné, ont arrêté de nombreux militants et militantes antifascistes. Donc les échos en fait de cette fusillade de Genève sont réels à Lausanne.
En 1933, c'est la fondation de la Fédération fasciste suisse. Les antagonistes entre socialistes et fascistes prennent plus d'ampleur que jamais.
C'est surtout, je pense, pendant cette période-là que les affrontements vont être les plus virulents entre les pro-fascistes et les antifascistes sur le territoire lausannois. Et puis, la municipalité de Lausanne, la municipalité rouge donc, va pas avoir un impact direct forcément sur la présence fasciste à Lausanne, puisqu'elle va plutôt se concentrer sur des aspects plus administratifs, sur aussi la crise financière, et sur le haut taux de chômage qui commence à impacter Lausanne. Donc les priorités vont être plutôt mises sur le chômage, mais il n'empêche qu'il va y avoir régulièrement des manifestations contre les fascistes à Lausanne. Et l'un des points de cristallisation de ces antagonismes entre pro-fascistes et antifascistes, c'est un acte commémoratif que les fascistes font tous les ans à Lausanne, qui est le défilé des fascistes au cimetière de Montois, qui accueille un monument qui a été érigé pour honorer les morts italiens qui résidaient dans le canton de Vaud, les morts italiens donc de la Première Guerre mondiale. Et puis, ce monument, qui est à la base tout à fait louable dans l'espace public, va être très vite accaparé et approprié par les pro-fascistes lausannois, qui vont en fait chaque année, du coup, exhiber leurs uniformes fascistes, exhiber des drapeaux, exhiber des insignes aussi fascistes, en la mémoire des soldats italiens morts pendant la Première Guerre mondiale. Ce point de ralliement des fascistes va être régulièrement contrecarré aussi par des antifascistes qui vont faire des appels à la contre-manifestation, qui vont se rendre eux-mêmes au cimetière de Montois, qui vont essayer de limiter en fait les actions militantes des fascistes et leur visibilité sur l'espace public. Et puis c'est également en 1932, novembre également, que plusieurs antifascistes qui résidaient au Tessin ont fait ce que la presse relate comme étant la profanation du monument aux morts de Montois. Ces antifascistes vont, on dirait aujourd'hui, taguer ce monument en y inscrivant le symbole communiste et en y inscrivant aussi « Nous voulons la tête du bourreau Mussolini ». Et donc ces inscriptions au lithium qui avaient été faites par ces antifascistes vont être prises très 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 au sérieux par les autorités policières et par les autorités judiciaires, qui vont mener une véritable chasse à l'homme pour savoir qui sont les auteurs de ces faits, et qui vont trouver ces personnes-là et les réprimer et les punir lourdement en les emprisonnant et en les excluant du territoire suisse. Le prétexte était effectivement lié à l'ordre public. C'est toujours ce qui est rappelé, par exemple, lors des interdictions de manifestations antifascistes. C'est la préservation, effectivement, de l'ordre public, de la paix et de la tranquillité. Mais en réalité, c'est aussi une volonté affichée, ou des fois diffuse, de conserver vraiment des bonnes relations avec l'Italie fasciste, et donc de endiguer au maximum les contestations antifascistes dans les rues, et de lisser en fait le plus possible les antagonismes. Le but, c'est vraiment de pas faire trop de remous, que ce soit calme et que Mussolini puisse être ravi du traitement qu'il y a à l'égard des antifascistes. Donc la surveillance est vraiment de mise, la répression est de mise. Le but est vraiment de conserver des relations cordiales et amicales avec l'Italie fasciste, qui est aussi un partenaire de choix économique au niveau commercial, au niveau bancaire, etc. La Suisse a de très bonnes relations avec l'Italie pendant toute la période fasciste, sous les auspices aussi de Giuseppe Motta, donc le chef du département politique pendant toute la période fasciste, qui lui avait une certaine admiration pour Mussolini, et pour la doctrine fasciste, sans qu'il se revendique en tout cas comme étant fasciste, il avait une certaine appétence pour la doctrine fasciste et surtout une italophilie qu'il reliait d'une certaine manière à Mussolini et à toute la doctrine fasciste.
À Lausanne, on trouve quelques antifascistes virulents dont la voix porte fort au moment où l'université de Lausanne s'apprête à donner son doctorat à Mussolini. Colin Rutschmann.
On peut citer notamment Paul Gollet, donc qui était rédacteur du Droit du Peuple, qui était l'organe officiel donc du Parti ouvrier socialiste lausannois, et qui lui a écrit, rédigé des articles qui contestaient en fait les prises de position du fascisme en Suisse, et qui aussi est le premier à révéler l'attribution du titre donc à Mussolini en 1937. Paul Gollet avait vraiment une crainte d'un glissement des, on va dire, des élites et puis de la bourgeoisie et puis aussi du parti libéral radical, d'un glissement de toute cette population-là vers la doctrine fasciste. Parce que, en fait, le PLR est assez séduit par le fascisme et surtout par la capacité du fascisme à endiguer les protestations ouvrières. En fait, assez basiquement, les radicaux lausannois voient dans le fascisme un facteur d'ordre social qui leur permettra de conserver leurs privilèges économiques et politiques et sociaux. Donc une possibilité de stabilisation de leurs privilèges, en fait, tout simplement. Alors on le voit à travers des relations épistolaires, déjà, notamment entre Pasquale Boninzeni et Mussolini. Pasquale Boninzeni, qui lui se décrit comme la sentinelle avancée du fascisme en Suisse romande, écrit à Mussolini que le régime fasciste a porté chance aux libéraux et aux radicaux de Lausanne, qui ont en 1937 remporté la municipalité et qui ont donc mis un terme à cette municipalité rouge. parce que, de nouveau, le Parti ouvrier socialiste lausannois avait axé sa campagne sur la lutte contre le fascisme, et puis avait, en quelque sorte, instrumentalisé, on peut dire, cette affaire de l'attribution du docteur honoris causa à Mussolini pour leur campagne électorale. Et puis, à l'affiche des résultats de cette municipalité, c'est donc effectivement les libéraux et les radicaux qui remportent la majorité. Et puis, Pasquale Bonizzini s'empresse d'écrire à Mussolini en lui disant qu'il a porté chance, justement, aux libéraux et radicaux. Donc, il y a comme ça des connivences, des collusions, des appétences entre, disons, l'aile droite du Parti libéral radical et les fédérations fascistes suisses, par exemple. Là, il y a un glissement qui s'opère à ce moment-là, qui est en fait assez dangereux pour le maintien de la démocratie en Suisse.
Parmi les initiés, on relève peu de protestations lors des discussions sur le doctorat lausannois de Mussolini. Mais un peu plus loin, parmi celles et ceux qui n'ont pas eu voix au chapitre, la réaction est plus vive.
Donc ces réactions, elles émanent en premier lieu effectivement de la communauté universitaire, qui sont pour certains et certaines indignés de cette attribution, et qui vont donc adresser des lettres de contestation au rectorat. Il y a environ une centaine de lettres qui sont aujourd'hui donc inventoriées dans les fonds d'archives de l'Université de Lausanne, où on peut voir effectivement plusieurs contestations de l'attribution de ce titre. Donc ça, c'est un des premiers moyens d'action dont les personnes qui protestent l'attribution de ce titre se servent. Et puis, il y a aussi du coup le Parti ouvrier socialiste lausannois qui va axer sa campagne sur l'attribution de ce titre en montrant que le Conseil d'État vaudois a ratifié en quelque sorte l'attribution du titre, a donné son aval pour que Mussolini soit honoré. Et puis ça, pour Paul Gollet, notamment, c'est une véritable injure, et c'est là que il y voit une menace pour le maintien de la démocratie.
Paul Gollet évoque même l'aplaventrisme et la duplicité du Conseil d'État vaudois dans cette affaire.
Il y perçoit vraiment une soumission, presque, de la part des élites politiques à l'encontre de Mussolini. Il y voit des véritables connivences, en fait, entre, justement, les radicaux libéraux et le fascisme. Il s'insurge contre cette passivité, en fait, du Parti libéral radical. Et il s'insurge surtout du fait que c'est en pleine connaissance de cause que ce diplôme est attribué. On connaît de manière détaillée les exactions du régime fasciste. On connaît les actions coloniales du régime fasciste, on connaît les déplacements de population massifs, on connaît les camps de concentration, on connaît aussi les exécutions d'opposants politiques, et on sait que ce régime est profondément autoritaire et dictatorial. Et pourtant, le titre est attribué à l'ancien étudiant, comme ils disent, donc dans le laudatio qui accompagne le diplôme, mais aussi à Mussolini qui aurait, grâce à son œuvre sociologique originale, comme ils disent, redresser en fait l'Italie et permis à l'Italie de prospérer à nouveau. Donc voilà.
Alors qu'au sein des élites suisses, on apprécie peu le socialisme, la distinction universitaire de Mussolini étonne. Au moment de son séjour en Suisse, entre 1902 et 1904, il était un peu, voire très peu étudiant, et surtout militant et socialiste, engagé et très bavard, aussi bien dans ses conférences que dans ses articles de presse.
C'est là tout le paradoxe de cette affaire aussi, c'est que Mussolini, au moment de sa période socialiste, était emprisonné, était arrêté par les autorités policières. Et puis, quand il revient à Lausanne, sous son aspect plus fasciste, il est sanctifié, honoré, glorifié. Et puis, c'est là qu'il y a un traitement différencié aussi, assez évident entre les personnes affiliées, militantes socialistes, et les personnes plutôt fascistes. Mais effectivement, c'est assez impressionnant que ce soit possible d'attribuer un titre à une personnalité qui a commis autant de crimes d'État, qui a bafoué le droit international, qui a utilisé des armes chimiques, des gaz lacrymogènes, des gaz asphyxiants, à l'encontre de populations très peu armées. Donc c'est ça qui choque donc l'opinion lausannoise, c'est le fait d'avoir attribué ce titre en toute connaissance de cause.
Parmi les opposants aux honneurs académiques rendus à Mussolini, on retrouve Jean Vinch, dont on vous parlait déjà dans le premier épisode de cette série. Une opposition largement étouffée.
C'est la seule personne qui va réellement s'opposer à l'attribution de ce titre, ou en tout cas officiellement s'abstenir de lui attribuer le titre. Jean Vinch, c'est un militant socialiste, c'est un anarchiste aussi, qui est actif dans la lutte syndicaliste, le syndicalisme révolutionnaire, comme on l'appelle à ce moment-là. C'est une personne qui a, on peut s'en douter, beaucoup de réticence à l'égard du fascisme, et qui va donc, dès le début de cette volonté d'attribuer le titre, manifester son désaccord. Et puis, il va s'abstenir lors de la votation, parce qu'il peut pas voter contre, mais il s'abstient. Et puis, au moment où Pasquale Boninzeni va annoncer officieusement à Mussolini que l'Université de Lausanne veut lui remettre son titre, il va totalement passer sous silence la désapprobation de Jean Vinch. Donc il va dire que c'est à l'unanimité que l'ensemble des membres du Conseil ont eu envie de lui accorder ce titre, lui attribuer ce titre. Donc il ment. Et puis, ce diplôme, avant d'être attribué à Mussolini, il va être imprimé, évidemment. Et puis, au moment de l'impression, il y a un apprenti typographe qui va en fait mettre la main sur un tirage du diplôme qui avait une assez mauvaise qualité, mais qui était quand même complètement lisible, et qui va en fait le remettre au chef scout. Il fait partie d'un mouvement scout, et puis le chef de ce mouvement scout est socialiste. Et donc, il lui remet ce tirage de mauvaise qualité, et ce socialiste va lui-même le remettre à Paul Gollet, donc rédacteur en chef du Droit du Peuple, l'organe officiel du Parti ouvrier socialiste lausannois, et qui va profiter de ce savoir, donc du fait d'être au courant que l'université va attribuer ce titre, pour, quelques jours avant justement les municipalités, donc les élections municipales, publier, grâce au Droit du Peuple, la nouvelle, et va faire éclater au grand jour cette nouvelle d'attribuer le titre à Mussolini. Et c'est là que des réactions vont émaner de toutes parts. Donc c'est avant même que le titre soit attribué que la population lausannoise est finalement au courant que ce titre sera attribué. Donc il a bien saisi son opportunité politique aussi. Et c'est là qu'on voit que justement ce titre va avoir un écho beaucoup plus important que juste intramuros dans les frontières de l'université. Il va avoir un retentissement aussi du coup dans le champ politique, etc. Mais malgré cette campagne électorale axée donc effectivement sur l'attribution de ce titre, le Parti ouvrier socialiste va perdre sa majorité à la municipalité de Lausanne.
Pour découvrir ou réécouter tous les épisodes de cette série et bien d'autres, on se retrouve sur l'application Play RTS. Et si vous voulez en savoir bien plus sur cette affaire, rendez-vous dans les pages de la Liberté ce vendredi et dès demain dans celle de 24 heures, nos deux partenaires pour cette série. À partir du 13 novembre, dans le bâtiment Anthropole de l'UNIL, vous pourrez aussi découvrir l'exposition Docteur Mussolini, un passé sensible. Les émissions de la journée, en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 5h.